Alors Yves Cussé, bonjour. On souhaiterait vous interroger un peu sur votre parcours, comme on a une émission de web radio qui s'appelle « Il y a une vie après normale ». Et on s'intéresse un peu au parcours atypique d'anciens normaliens, voilà, de post-normaliens. Et donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Oui, je me sens pas du tout une identité de normalien. Quand je dis que je viens de Normal Sup, pour moi, c'est comme un sésame qu'on m'a donné. Je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Je sais que j'en ai souffert et c'est un souvenir. Mais je m'identifie pas du tout à ça. Donc, c'est un truc marrant. Ça fait plaisir de le dire. Je suis passé par l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Mais voilà, pour moi, ça fait plus tellement partie de ma vie puisque au fond, c'est une étape. On garde cette étiquette, mais ce n'est qu'une étape. Moi, j'ai dessiné un parcours personnel qui a pas grand chose à voir finalement avec ce que pouvait m'apporter ce diplôme. Je serai jamais un professeur titulaire de l'université. Voilà, maintenant j'ai insisté un petit peu, maintenant c'est moi qui le choisis de pas l'être et d'emprunter une autre voie. Alors vous direz pourquoi je suis allé à Normal Sup, c'était peut-être qu'est-ce que j'ai été faire là-bas. Quand vous voulez faire de la philo, que vous aimez ça, on fait une hypocagne, une cagne. Moi je pensais vraiment pas que j'aurais ce concours. Et puis voilà, j'ai continué, j'ai insisté, je me suis retrouvé à Normal Sup. C'est un bon moyen de continuer à faire de la philo, en tout cas.
C'est vous qui faites du théâtre, justement, pour préciser. C'est pour ça qu'on peut considérer votre parcours comme atypique, avec tous les guillemets que ça demande. Alors, simplement, pour revenir rapidement sur le thème de la conférence, qui était « Satire du pouvoir », pouvoir de la satire, et que vous venez de donner avec David Fontaine, qui est journaliste au Canard Enchaîné. On souhaitait vous interroger sur ce que vous avez dit, qui me semblait très intéressant, c'est-à-dire que la satire ne s'adresse pas seulement au peuple, mais aussi au pouvoir, que le pouvoir doit avoir des oreilles pour l'entendre et éventuellement se remettre en question en conséquence. Mais est-ce que, étant donné tout ce qui se passe en ce moment, vous avez parlé de Stéphane Guillon, donc évidemment on pense à l'affaire Guillon, à la volonté d'Éric Besson de l'attaquer en justice, on peut penser aujourd'hui au problème de Sophia Aram avec le Front National, est-ce qu'aujourd'hui finalement le pouvoir n'est pas en train de se boucher les oreilles vis-à-vis des humoristes, de ceux qui pratiquent la satire, ou est-ce que ça n'est qu'une illusion d'optique finalement de notre part?
Il est toujours tendu entre les deux, ce qu'on appelle le pouvoir officiel. C'est à peu près une réaction analogue à la puissance populaire, parce que le pouvoir du gouvernement est toujours confronté, il faut qu'il le soit, à la puissance populaire, et il y a dans l'humour politique et satirique une expression de la puissance populaire, et dans le rire aussi une expression de cette puissance. Qu'est-ce qu'il en fait, le pouvoir, de cette puissance? Je parle comme Sarkozy, dit qu'est-ce qu'il en fait, le pouvoir, je répète le sujet de cette il sait jamais trop, comme tous les hommes de pouvoir. On le voit dans les pays arabes avec des oligarques ou des dictateurs. Évidemment, ils peuvent pas avoir les oreilles tendues, mais dès qu'on prend le pouvoir, même en démocratie, on devient un oligarque, on devient un monarque, et un monarque, il a les oreilles en partie bouchées. C'est une condition de l'exercice de son métier, en partie bouchée. Mais du moment que ça n'empêche pas la satire d'exister, c'est l'affaire de France Inter de virer Guillon et de virer Porte. Je trouve qu'on en a fait des tonnes. Ils existent, ils s'expriment.
C'est vrai que les oreilles bouchées, je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma pensée, parce que les oreilles bouchées donnent une idée de passivité, alors que le problème, ce n'était pas seulement la passivité à la critique, c'était au contraire aller attaquer la critique en prenant ce recours de la justice. C'était plutôt là-dessus que je voulais... L'humour est-il en danger aujourd'hui, l'humour satirique?
Non, je crois pas. C'est des accidents de parcours de l'humour, de la satire. C'est toujours un risque. Quand la satire passe par une trop grande personnalisation, et je crois que Guillon a franchi cette limite-là, jamais, le poursuivre en justice me paraît une absurdité, mais il prend ce risque-là. Il va dans une personnalisation excessive qui est loin d'être la partie la plus intéressante de son humour, à mon goût. Hein. C'est moins drôle, ça n'apporte pas grand-chose. Et en plus, c'est risqué pour lui, c'est dommage pour lui. Il le sait très bien qu'il s'exposait à des poursuites en justice et pour diffamation en s'attaquant comme ça aux personnes. Il le sait. Il peut pas faire l'innocent après, ou alors il veut se mettre dans un rôle un peu people de martyr. Mais ça va, tout va très bien pour lui, tout va très bien pour Stéphane Guillon. Il a obtenu d'ailleurs 260 000 euros de la part des prud'hommes. Il a gagné son procès contre France Inter. Très bien, il est parti avec son indemnité. Il le dit lui-même, il a l'honnêteté de dire « Bon, bah, je suis content d'avoir gagné mon procès et de me retrouver avec plus de 200 000 euros. Hein, mais en même temps, je suis triste de devoir en passer par les prud'hommes et de devoir abandonner ma chronique voilà, à cause de ça. Mais voilà, moi, on en fait une trop grande affaire. Je crois que sur le long terme, la satire... Elle se porte plutôt bien, elle va continuer, j'espère. Et on n'en est pas à un moment où le gouvernement d'aujourd'hui est assez névrotique, donc assez crispé, oui. Mais on n'en est pas à un moment où on va tomber dans une censure systématique de tout ce qui pourrait ressembler à une critique radicale du pouvoir.
Alors justement, dans la continuité de cette réflexion sur le dialogue entre le pouvoir et la satire, est-ce qu'il y a un rôle politique propre de la satire? Parce que justement, avec Guillon, parfois on a l'impression que ça tourne un peu à vide. Est-ce qu'elle peut influencer l'action politique, vraiment ?
Je ne crois pas. Il ne faut surtout pas qu'elle le souhaite. Et comme je disais pendant la conférence, quand la satire passe du côté de l'engagement, elle cesse d'être drôle. Et on le voit souvent, d'ailleurs, chez les chroniqueurs plutôt engagés, comme Didier Porte, voire Sophie Aram aujourd'hui, que j'entends pas trop. Donc mais c'est important pour moi d'essayer de les écouter, ces gens-là, puisque pour moi, j'en fais partie, hein, même si je n'ai pas de chronique à France Inter et que je n'ai pas leur visibilité médiatique. Enfin, voilà, j'écris des spectacles. Et donc, Sophie Aram ou Didier Porte vont dans le sens de l'engagement. À partir de là, ils disent des choses intéressantes. Et ils l'assument. Mais le risque, c'est de cesser d'être drôle. Hein, c'est un problème de la satire en permanence. Elle veut continuer à être drôle le plus loin possible. Mais si elle continue à être drôle, elle tourne au bout d'un moment à vide, puisqu'elle cesse de s'attaquer positivement au pouvoir, comme force de proposition, puisque en étant force de proposition, elle redevient sérieuse. Donc ça, c'est un dilemme permanent, mais c'est voir le dilemme de l'humour, hein, en permanence aussi. Est-ce qu'on veut que l'humour fasse rire, ou est-ce qu'on veut que le rire aille au-delà de lui-même? Tant qu'il y aura de l'humour, cette question se posera, tant qu'il y en aura, donc il faut qu'il y en ait. Ça, c'est important. Et voilà, il y a des chroniqueurs aujourd'hui. L'un des meilleurs, c'est quand même François Morel, on l'oublie, qui lui manie bien la langue de l'absurde. Il n'a pas été renvoyé, heureusement. Mais lui, il a une satire intelligente que je trouve intéressante, parce qu'il reste dans la satire. Mais la satire qui manie l'absurde, qui manie l'analyse de la langue, qui manie le jeu avec les mots et sollicite plus, l'imaginaire de l'auditeur.
Une satire qui est toujours sur le fil du rasoir, mais qui se porte plutôt bien, selon vous, au final.
Qui se porte bien Oui, il y a de la place toujours pour la satire. Il n'y a pas à dramatiser la situation, mais c'est plus l'état social de la rigolade obligatoire qui me fâche un petit peu. Cette espèce de compulsion de la rigolade avec ces bouffons officiels, c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant, plutôt. Ça donne une idée aussi du niveau qui est attendu des gens, quoi. Il y a un niveau d'exigence qui a baissé et qui est pas très compatible avec l'exercice exigeant aussi de la citoyenneté, même si je dis ça gravement comme moralisateur. J'aime pas trop, puisque je fais, j'adore rire et que j'aime les spectacles d'humour. Mais...
Merci
à vous
d'avoir répondu à nos questions, et aussi merci pour votre intervention dans la conférence de tout à l'heure.